Bonsoir, comment allez-vous? Mes enfants, lisez le journal. Oui, les enfants aussi. Pas forcément le monde diplomatique, mais un quotidien pour enfants ou un peu plus tard un journal comme Le Parisien aujourd'hui en France. Lisez à votre rythme, avec vos priorités, en commençant par la fin, par le dessin, par le foot, peu importe. Baladez-vous dans les pages, papier. Eh oui, papier. D'abord, on le sait, maintenant, réduisons le plus possible le temps devant les écrans. Ici, nous sommes passés à la presse sur écran. Tiens, à contre-courant, pour en dépenser un peu plus. Oh, pour économiser des arbres, qui sont faits en bois. Vous le saviez, ça brune ou pas? Disait Alex Vizorek à Madame Poisson le 24 septembre sur cette antenne et c'était bien rigolo. Bref, le journal papier fait vivre la lecture, car il a une odeur, une texture, un son, une couleur qui déteint sur les doigts. Autrefois, dans les bonnes maisons, on repassait les journaux pour fixer l'encre. Un journal papier, c'est du lien social. En ville, il est sur le zinc des bistrots. On l'attend, on l'échange, on le commente. À la campagne, on l'achète à deux maisons pour partager les frais. L'une le reçoit le matin, elle le lit donc en premier. L'autre ne le lira que le soir, mais pourra le garder. Il servira à allumer le feu, emballer les fleurs, frotter les carreaux, recueillir les pots de pommes et en passant, on lira une info d'il y a 6 mois. Il y a une vie après la vie dans le monde du journal papier.
Je m'appelle Asia et j'ai 11 ans. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de panneaux solaires derrière tous les téléphones portables et sur toutes les voitures, parce que pour l'énergie électrique, ce serait plus simple, non? Merci beaucoup, au revoir.
Daniel Linco, vous qui êtes spécialiste de l'énergie solaire, que pensez-vous de la question d'Asia?
Bonsoir Asia. Oui, tu as tout à fait raison, c'est une excellente idée. Hein. Et d'ailleurs, elle commence à se réaliser parce que de plus en plus, on voit des téléphones portables qui utilisent des petits cintres de panneaux solaires pour se recharger, même sur leur écran, tu sais. Et on voit aussi de plus en plus de voitures électriques. Donc tu as bien raison. Mais attention, un panneau, pour qu'il puisse donner de l'énergie, de l'électricité, il faut qu'il lui arrive de la lumière dessus. Donc si le petit panneau solaire est mis à un endroit à l'arrière du téléphone portable et qu'il n'a pas assez de lumière, il produira pas suffisamment d'électricité.
Oui, c'est pas au fond de mon sac qu'il va se recharger.
Exactement. On voit beaucoup de choses qui fonctionnent, des balances par exemple, des montres aujourd'hui, donc ça marche. Alors pour les voitures, c'est également possible, parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a des courses de voitures solaires en Australie.
Ah oui, évidemment.
Qui traversent le désert, mais en Suisse aussi. C'est des voitures solaires qui sont recouvertes de panneaux solaires et elles ne fonctionnent qu'à l'énergie solaire et ils peuvent faire des kilomètres et des kilomètres. Un panneau solaire, ça peut faire en éclairement 200 watts ou 150 watts. Ouais. Vous savez que 100 watts, c'est la puissance d'un homme ou d'une femme. Donc c'est en fait suffisant pour faire avancer.
Donc on met les panneaux sur le toit de la voiture, quoi.
Oui.
Et la voiture dort dehors.
Elle dort dehors. Alors, une voiture qui consomme aujourd'hui, la puissance, c'est plutôt 10 kilowatts. Et même au démarrage d'une voiture, ça peut être 100 kilowatts.
Ah oui, c'est beaucoup.
Et donc, ce qu'il faut, c'est beaucoup, beaucoup de panneaux solaires, voyez. Donc, en fait, vous pouvez avoir des panneaux solaires sur la voiture. Quand la voiture est arrêtée, elle recharge des batteries. Donc, vous pouvez utiliser l'énergie solaire qui ont été stockés. Finalement, les voitures électriques solaires vont sans doute se développer. Et un moyen très simple, c'est que maintenant, quand on garde des voitures, on les gare sous des panneaux solaires, ce qu'on appelle les ombrières solaires. Et donc, c'est les voitures électriques qui se rechargent avec les panneaux. Et à ce moment-là, on voit qu'on pourrait faire 15 000 km par an avec une ombrière solaire, avec une voiture électrique.
Mais alors, et combien de kilomètres d'indépendance, par exemple, avant de retourner à l'ombrière?
Alors là, on est limité par les batteries aujourd'hui, mais les progrès se font très vite. Ça pourrait même être chargé dans la maison ou l'immeuble. Les voitures sont rechargées par des panneaux qui sont sur la maison.
Daniel Linco, donc chimiste spécialiste de l'énergie solaire, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Daniel Linco est venu au petit bateau il y a 3 ans. Alors depuis, il existe aux Pays-Bas une grosse berline solaire qui marche mais qui est terriblement chère, 149 000 euros. Il y a pourtant déjà 90 clients sur la liste d'attente.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 6 ans. Pourquoi les araignées viennent dans les maisons? Merci, au revoir.
Au revoir, merci, bonsoir Thomas. Nous avons, Thomas, proposé ta question à une spécialiste des araignées, maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle, où tu es peut-être déjà allée. Christine Collard, pourquoi les araignées viennent dans les maisons, demande Thomas.
Alors Thomas, en fait, les araignées, elles sont déjà dans les maisons, elles ne viennent pas forcément dans les habitations, mais il existe dans nos maisons, on va dire, une vingtaine d'espèces d'araignées
ah bon,
qui vivent tout à fait normalement chez nous, hein, donc qui viennent pas forcément, mais le milieu qu'on leur propose avec les petits garages, les greniers, les différents petits coins ou recoins des habitations, c'est des milieux qui sont tout à fait propices à leur installation. Et avant que nous on arrive, les araignées existaient déjà depuis longtemps. Elles vivaient, ces araignées-là, dans des endroits un peu plus sombres, un peu plus protégés. Donc on leur offre des habitations, elles continuent à venir dedans.
Quand vous dites, Christine Rollard, avant qu'on arrive dans la maison ou avant qu'on arrive sur Terre?
Alors avant qu'on arrive sur Terre, effectivement, après, une fois qu'on a construit un certain nombre d'abris pour se protéger, nous aussi. Et donc les araignées qui vivaient donc largement avant nous, en fait, depuis à peu près, les premières traces fossiles datent de 390 millions d'années quand même. Donc c'est quand même énorme. Et donc ces araignées, il y a une vingtaine d'espèces dans les habitations. Alors on les voit pas souvent.
Elles se cachent.
Et oui, mais elles sont toutes petites en général. Alors on a souvent l'habitude de voir la grosse, avec les pattes un petit peu sombres, velues, qui courent sous les meubles ou derrière les garages, dans les garages, etc. Donc c'est l'image de l'araignée des maisons. Alors qu'il y en a quand même d'autres derrière qui sont de petite taille, qui sont la plupart du temps nocturnes et qu'on ne voit donc pas souvent. Mais elles existent, elles sont là et elles nous débarrassent des mouches, des moustiques, des acariens, etc. Donc il faut les laisser dans nos habitations. C'est des bons insecticides naturels, les araignées dans les habitations.
Les araignées sont donc sur Terre depuis 390 millions d'années. Et nous ? Eh bien nous, les humains, nous sommes sur Terre depuis 2,8 millions d'années seulement. Christine Rollard a écrit « Je n'ai plus peur des araignées » avec Abdelkader Mokadem et c'est édité chez Dunod. C'est drôle parce que ça rappelle vraiment le son du métronome pour ceux qui connaissent. Toc, 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 toc. Métronomie, ce groupe a déjà 20 ans et c'est en utilisant un vieil ordinateur que Mont a commencé à composer ses musiques électroniques. Alors, Eliane Girard me dit dans le casque qu'on ne dit pas 2,8 millions d'années, mais c'est plus joli de dire 2 800 000 années. Bon, ça fait à peu près le même nombre finalement.
Les petits bateaux sur France Inter.
Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lélie, j'ai 7 ans. J'aimerais savoir pourquoi dans les huîtres, il y a des fers, les pas dans les moules.
Dans les huîtres, il y a des perles et pas dans les moules, demande Lélie Jean-Proux. Vous êtes spécialiste des mollusques en général. Chercheur Elie Frémer a-t-elle raison déjà?
Alors un petit peu raison, puis un petit peu tort quand même. On peut trouver des petites perles dans les huîtres de chez nous, hein, et les moules de chez nous. Ça peut arriver de trouver des petits grains de sable qui ont la forme d'une petite perle, mais c'est quand même extrêmement rare. On en trouve un peu plus souvent dans les huîtres que dans les moules, mais c'est très rare, peut-être une fois tous les, je sais pas, 1000 huîtres, on peut trouver une petite perle. Par contre, dans les huîtres tropicales, ce qu'on appelle les huîtres perlières, oui, là, on trouve des perles dans ces huîtres-là. On fabrique même des perles dans ces huîtres-là. Mais on pourrait aussi le fabriquer dans des moules de ces pays-là. Sauf que c'est plus facile de les faire dans les huîtres. Mais ce ne sont pas les mêmes huîtres du tout qu'en Europe. Hein.
Ah bon ?
C'est une huître qui est assez grosse, qui n'est pas du même genre. C'est une huître qu'on appelle Pinctada margaritifera. On en trouve à Tahiti, c'est les perles noires. On en trouve en Australie, la Pinctada maxima, ce sont des perles dorées. On trouve au Japon, ce sont les perles blanches. Toutes les grand-mères avaient des colliers de perles blanches. Ça s'appelle la Pinctada Akoya, c'est la perle blanche.
Jackie Kennedy, c'est la perle blanche.
Et puis on en trouve aussi au Mexique. Hein, il y a aussi une huître perlière au Mexique. Donc toutes ces huîtres-là font des perles. Enfin, font des perles. L'homme fait des perles avec ces huîtres-là. La perle, comment ça se fait? C'est assez simple. Quand une huître est ouverte, il se peut qu'un grain de sable rentre entre ses deux valves et elle n'arrive pas à l'éliminer avec les courants d'eau qu'elle peut faire. Et donc, à ce moment-là, l'huître va faire une défense autour de ce petit grain de sable. Il va faire de la coquille autour et ce qu'on va donner, ou une perle, si elle est libre, ou alors si elle est accrochée à la coquille, on va appeler ça un mabé.
Donc, un mabé.
Si vous allez dans les bijouteries, vous pouvez demander. Donc, ce sont des bijoux qui sont plats d'un côté parce qu'ils ont été coupés. La perle a été coupée de la coquille et on appelle ça un mabé. Ça fait de très jolis bijoux.
Donc, en fait, c'est une défense. Mais il y a des espèces à qui on peut mettre des grains de sable. Elles ne feront jamais de perles.
Je pense qu'on pourrait y arriver quand même. Pour beaucoup d'autres espèces, hein. En fin de compte, on fait une petite incision dans la chair de l'huître. Alors d'abord, on ouvre les deux valves, ce qui n'est pas facile, hein, avec des pinces.
Sans la tuer.
On fait une petite incision au scalpel. Et dans cette petite incision, on va mettre un nucléus, c'est-à-dire une petite bille qui fera le cœur de la perle, hein, parce qu'on met quelque chose au départ. Hein. Et puis on va mettre des cellules du manteau de l'huître qui font la nacre, le carbonate de calcium. Et quand on referme l'huître, ces cellules vont se reproduire autour du nucléus et vont faire de la nacre. Et c'est ce qui va donner la perle. Un an plus tard ou un an et demi plus tard, on va réouvrir le coquillage et on aura une perle. Donc on pourrait faire ça dans les moules. Il faut qu'il y ait un peu de chair quand même, quoi. Il ne faut pas que ça soit un animal totalement maigre.
Mais dans les grosses moules, il y a de la chair. Il y a des grosses perles d'ailleurs dans les grosses moules, non?
Puis, comme oui, on peut faire. Il n'y a pas que dans le milieu marin, il y a des moules d'eau douce aussi où on fait des perles. En Chine, par exemple, il y a beaucoup d'élevage de moules d'eau douce. Alors, ce sont d'autres espèces, hein, dans lesquelles on fait de la perliculture.
Et voilà, moi j'ai un très joli collier en perles de moule. Pour poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57. C'est un répondeur, vous avez tout votre temps, ne soufflez pas. Les parents, vos enfants peuvent recommencer si jamais leur première question ne leur plaît pas.
Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir, ça veut dire quoi l'âge de raison et pourquoi on dit l'âge de raison? Pourquoi on ne dit pas 7 ans, c'est quand on est grand? Merci, au revoir.
Jeanne Siofachin, vous êtes psychologue et psychothérapeute et écrivain. S'il te plaît, aide-moi à vivre. Et votre dernier livre édité chez Odile Jacob, c'est peut-être le mot raison qui interroge, qui tire l'hypote Lila?
Merci beaucoup Lila pour ta très jolie question. Alors, je vais t'expliquer pourquoi on dit ça. Avant 7 ans, les enfants, ils n'ont pas la possibilité encore, parce que leur cerveau n'est pas encore tout à fait arrivé à maturité. Tu sais, dans le cerveau, il y a plein de cellules qu'on appelle des neurones, qui sont branchées les uns avec les autres, comme des tas de fils électriques qui seraient branchés les uns avec les autres. C'est un peu comme ça dans le cerveau. Eh bien, avant 7 ans, le cerveau, il n'est pas encore tout à fait branché. Il n'est pas encore tout à fait connecté. Et il y a une zone qui n'est pas encore connectée, qui est la zone qui nous permet, tu vois, dans notre tête, de nous dire « Oh là là, ça, c'est pas bien ce que j'ai fait. » Ou « Oh là là, j'aurais peut-être dû faire autrement. » Ou « Tiens, je comprends que si papa ou maman me dit ça, ça veut dire ceci ou cela, parce qu'ils me l'ont déjà dit hier. Ah oui, la maîtresse, elle avait déjà expliqué. Mais moi, quand même, je me sens nulle sur ce truc. » C'est tout. Tu vois, tout ce qu'on peut se dire à l'intérieur de sa tête, toute cette façon de se parler à l'intérieur de sa tête, et dans mon métier, ça porte un nom un peu compliqué, ça s'appelle les métacognitions. Ça veut dire tout ce qu'on peut se dire sur soi-même et sur ce qu'on est en train de penser. Et avant 7 ans, ça marche pas encore. Ce qui veut dire que on fait les choses comme on les sent, au moment où on les sent. Et le cerveau, il sait pas faire pour réfléchir sur ce qu'on a fait. C'est ça la métacognition. C'est réfléchir sur ce qu'on a fait, réfléchir sur comment on l'a fait, réfléchir sur la pensée qu'on a eue au moment où on l'a fait.
Une sorte de recul.
Oui, c'est-à-dire que c'est en fait la pensée sur ses propres pensées. C'est finalement une forme de 3D, de perspective, de mise en perspective de la pensée. Et donc, quand on n'a pas cette capacité, parce que le cerveau n'est pas encore mature, eh bien, on est dans l'action proprement dite, sans possibilité effectivement de faire ce pas de côté et d'avoir ce discours interne. Donc, on est beaucoup plus dans la réactivité, on est beaucoup plus dans l'impulsivité et on n'a pas cet outil de régulation du comportement. Et ce qui est formidable, c'est de se dire, la sagesse populaire l'avait compris depuis longtemps, puisqu'on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. Et oui, c'est l'âge où le cerveau est capable de se mettre à raisonner.
Oui, j'y pensais pendant que vous parliez. C'est que l'expression a largement précédé l'imagerie, par exemple.
Exactement, mais pour beaucoup de choses, c'est pareil. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je trouve que c'est formidable que finalement, on se saisisse d'évidence et de compréhension bien avant que, et heureusement, que les sciences viennent nous dire « Oui, vous aviez raison, on le valide. »
Une menthe à l'eau sans colorant, c'est de quelle couleur ? C'est transparent.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoutée au jukebox. Oh, oh, oh. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la scène du Revox. Oh, oh, elle semblait bien dans sa peau. Ses yeux couleur menthe à l'eau, cherchait du regard un spot, le dieu projecteur.
Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr, elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalope, moi j'étais de trop.
Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie. Roulant le flipper, oh. La chanson qui couvre tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Oh, oh.
Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux morte à l'eau. Hollywood est dans sa tête. Couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi, je suis de trop. Mmh. Oh. Mmh.
Est entré et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Oh, oh, oh. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Oh, oh, la fille aux yeux.
C'est Juliette Armanet qui chantait avec Eddie Mitchell pour cette couleur menthe à l'eau dans les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 11 ans et j'aimerais savoir qui a inventé le mort. Merci.
Bonsoir Esther, Thierry Lefebvre. Qu'est-ce que c'est que le morse d'abord
pour Alors le morse, pour faire simple, c'est un alphabet.
D'accord.
Qui utilise des impulsions électriques.
C'est ce que faisait Tintin.
C'est ce que fait Tintin, en particulier dans le Lotus Bleu, dans la première page, comme ça, il écoute le morse, il reçoit un message qui arrive de quelque part en Chine, ce qui va le conduire à des aventures absolument extraordinaires. Donc le morse, c'est un système, un alphabet composé d'impulsions électriques, des points et des traits, c'est-à-dire d'impulsions longues pour les traits et d'impulsions courtes pour les points. Alors comment on obtient ces impulsions? En utilisant ce qu'on appelle un manipuleur morse, c'est-à-dire un petit instrument sur lequel on appuie, et à chaque fois qu'on appuie, ça ouvre le circuit électrique, et donc ça va permettre au courant de passer. Et on relève immédiatement, si on relève immédiatement, ça fait un point, c'est très court, un ti, comme ça. Si on relève plus lentement, ça fait un trait. Et chaque lettre va être composée de points et de traits. Par exemple, le S va être composé de 3 points. Le O va être composé de 3 traits. Et si on veut dire SOS, hein, ça va être le premier grand usage du morse, eh bien on met 3 points, 3 traits, 3 points. On a composé le message. Et donc, ce morse a été imaginé par un Américain qui s'appelait Samuel Morse. C'était un professeur de sculpture et de peinture à l'université de New York qui avait des lubies comme ça et qui avait imaginé à partir de 1832-1833, hein, donc ça remonte à très très loin, de transmettre à distance comme ça des messages électriques. Et donc il va s'associer avec plusieurs personnes pour mettre au point ce qu'on va appeler la télégraphie électrique, puisque le morse ça sert à l'origine pour la télégraphie électrique.
C'est ce qu'on voit dans tous les westerns.
On voit effectivement les personnages et on voit souvent dans à côté du train, généralement à côté de la,
oui,
la voie ferrée,
absolument,
des fils comme ça qui longeaient systématiquement les voies ferrées et qui permettaient de transmettre des messages pratiquement à la vitesse de la lumière. Hein, l'électricité, ça va très très vite, d'un point de la côte est à un point de la côte ouest. Mais le paradoxe de cette histoire, c'est que si Samuel Morse a eu l'idée, c'est un de ses associés qui s'appelait Alfred Vail, V-A-I-L, oui, qui va imaginer le code en lui-même.
Ah, hein, oui, parce qui doit être assez compliqué quand même.
Oui, oui, oui. Et on aurait pu lui donner le nom, parce que ce qu'on retient, c'est alphabet Morse, c'est-à-dire, voilà, bon, bah, tant pis, Vail est tombé dans l'oubli, et on a gardé Morse, mais qui avait quand même donné l'impulsion de la recherche et de la transmission des messages à distance.
Thierry Lefebvre enseigne à Paris Diderot. Vous pourrez trouver les références de ses ouvrages et de son blog sur le site des Petits Bateaux. À propos de Morse, alors SOS, hein, c'est 3 courts, 3 longs, 3 courts. Ça, faut le savoir par cœur. En 1966, le pilote de la marine américaine Jeremiah Dunton était prisonnier de guerre. Il a cligné des yeux pour transmettre le mot « torture » en Morse pendant un entretien vidéo forcé tourné par ses geôliers. Vous pouvez réécouter, bien entendu, ces petits bateaux par franceinter.fr. Merci à Marjorie Devoucou, à Eliane Girard, à Marie-Claire Matout, à Jérémy Guillon et à Noël Bréham. Vous la connaissez, mais oui, très bien, elle est formidable. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30 et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.